Radio Prague, les informations. Bonjour, crise du gaz. Le Premier ministre tchèque et une équipe européenne de monitoring sont en Ukraine ce vendredi. Crise du gaz toujours, la République tchèque a décidé de venir en aide à la Slovaquie. Et enfin, économie, nouvelle hausse du chômage avec un taux de 6% en décembre. Suite à une journée de négociations difficiles, jeudi, le Premier ministre tchèque Mirek Topolánek et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entendus sur le déploiement d'une équipe d'observateurs européens en Ukraine ce vendredi. La République tchèque agit en tant que pays président de l'Union européenne. La Russie a coupé les vannes des gazoducs ukrainiens par lesquels transite son gaz depuis mercredi. Sur place à la frontière russo-ukrainienne, une équipe européenne de monitoring est donc chargée de surveiller ce transit, point de litige entre Moscou et Kiev. Vendredi après-midi, le Premier ministre tchèque se trouvait également à Kiev pour poursuivre les négociations avec le président et le Premier ministre ukrainien. Avant de partir, Mirek Topolánek a formulé l'espoir que le déploiement de ces équipes européennes constitue une solution et permette prochainement un retour à la normale. Crise du gaz toujours, la République tchèque va aider la Slovaquie en lui fournissant une partie de ses réserves. Le ministre de l'Industrie, Martin Žiman, a expliqué que la société tchèque RVE Transgaz possédait en Slovaquie une réserve pour ses clients tchèques et que cette réserve servirait à approvisionner la Slovaquie totalement dépendante des livraisons russes. Samedi matin, 2 millions de mètres cubes de gaz naturel seront mis à disposition de la Slovaquie. Le volume pour les prochains jours doit toutefois encore être précisé. On passe à l'économie. Le taux de chômage en République tchèque a augmenté au mois de décembre et s'élève désormais à 6%. Il s'agit d'une augmentation de 0,7 points par rapport au mois de novembre. Un peu plus de 335 000 personnes sont actuellement sans emploi. Les chiffres ont été communiqués vendredi par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Cette hausse du chômage répond aux pronostics formulés par les analystes. Petrov, le plus grand producteur de pianos en Europe, dont le siège se trouve à Hradec Králové en Bohême de l'Est, a annoncé vendredi le licenciement d'environ la moitié de ses 390 employés. La société a expliqué que la crise financière était la principale raison de cette mesure. On passe au sport. En tennis, Radek Štěpánek s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Brisbane en Australie vendredi en battant le Suédois Robin Söderling, tête de série numéro 4, en 3-7. En demi-finale de la première épreuve de la saison, samedi, le Tchèque affrontera le Français Richard Gasquet, tombeur de Joe Wilfried Tsonga, là aussi en 3-7. On termine avec un mot de météo. C'est un temps très froid qui continue de régner sur la République tchèque samedi, jour de la fête des Bratislaves selon le calendrier local. Les températures descendent jusqu'à moins 18 degrés pendant la nuit, mais seront légèrement en hausse pendant la journée de samedi, puisque les maximales varieront l'après-midi entre moins 5 et moins 1 degré. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
La crise gazière affecte dans telle ou telle mesure l'ensemble des pays européens. Nous vous présenterons un regard sur cette crise de Bruno Le Maire, ministre français pour les affaires européennes, qui est venu cette semaine à Prague à l'occasion de l'ouverture de la présidence tchèque. On passera ensuite à la crise économique, qui sera le thème de deux autres contributions que nous vous proposons aujourd'hui, avant de céder la parole à Fabrice Martin Plichta, promu par la Chambre de commerce franco-tchèque pour ses activités à la tête de la Fédération tchèque des banques alimentaires. La crise du gaz est-elle en passe d'être résolue? Une mission d'observateurs internationaux devait arriver en Ukraine vendredi après-midi après de multiples rebondissements dans les négociations entre Russes et Ukrainiens. L'Union européenne, très affectée par cette crise, tente de peser de tout son poids pour une résolution rapide du contentieux entre Moscou et Kiev. Un contentieux qui n'est pas nouveau. Les livraisons de gaz avaient déjà été interrompues, mais cette fois la crise est plus grave. On écoute Bruno Le Maire, secrétaire d'État français aux affaires européennes.
Elle est plus grave pour une raison très simple, c'est que nous voyons aujourd'hui des États membres de l'Union européenne, que ce soit la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, également la République tchèque, qui aujourd'hui font face à de vraies difficultés d'approvisionnement en matière de gaz, et donc qui sont dans l'incapacité de fournir l'énergie pour leurs entreprises, pour leurs industries, et qui doivent évidemment assurer la fourniture pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les particuliers, alors même qu'il y a une vague de froid qui traverse toute l'Europe. Cette situation est donc totalement inacceptable. Chaque État membre a droit à avoir la sécurité en matière énergétique, la capacité à chauffer ses ressortissants et leur assurer le minimum de confort nécessaire.
Comment peut s'exercer la solidarité européenne vis-à-vis de la Bulgarie notamment ?
La solidarité européenne, elle prend d'abord la forme d'un message très clair, politique, très fort, qui va être adressé dans les heures qui viennent à la Russie comme à l'Ukraine. Vous savez que ce matin, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont adressé déjà un message très net à l'égard de l'Ukraine et de la Russie, en leur demandant de reprendre sans délai l'approvisionnement en gaz à destination des États européens. Et bien, le Conseil Affaires Générales aujourd'hui va adresser le même message politique fort en disant à la Russie et à l'Ukraine, vous avez pris des engagements à l'égard des États membres de l'Union européenne, vous avez pris l'engagement de fournir le gaz, vous avez pris l'engagement de laisser passer le gaz à travers le territoire ukrainien, nous attendons de vous que vous remplissiez ces obligations sans délai.
Vous pensez que Moscou a voulu tester aussi indirectement la présidence tchèque, sa capacité de riposte ?
C'est possible, mais on voit en tout cas que la capacité de réaction de la présidence tchèque, elle est totale, elle est très ferme, elle est rapide, elle se fait avec le soutien de tous les États membres et elle permet d'avoir en quelques jours un message politique extraordinairement clair à l'adresse de Moscou et à l'adresse de Kiev. Je note aussi d'ailleurs qu'il y a eu en France même, vous me parliez de la France tout à l'heure, une mobilisation totale de toutes les autorités politiques sur ce sujet. Si on reprend le calendrier, hier mercredi, nous avons eu un conseil des ministres où j'ai présenté des propositions au président de la République et au Premier ministre. Le Premier ministre François Fillon a fait une réunion de crise à 18h le soir pour définir un certain nombre de priorités. Il m'a rappelé ce matin longuement pour savoir où nous en étions au Conseil Affaires Générales. Jean-Yves Borloo et Christine Lagarde suivent ça également de très près. Je crois que c'est cette mobilisation collective du président de la République, du gouvernement français, de toutes les autorités françaises qui permet aussi d'aboutir à de bons résultats.
La République tchèque s'est dotée jeudi d'une nouvelle institution, le Conseil économique national. La tâche de cette institution est claire, aider la République tchèque à faire face aux conséquences de la crise financière mondiale. Plus de détails sur sa composition et ses objectifs avec Alain Slivinski.
Le Premier ministre Mirek Topolánek a annoncé jeudi lors d'une conférence de presse la composition du Conseil économique national. Il a insisté sur le fait que les membres de cette institution n'ont pas été choisis en raison de leur appartenance politique. D'après le chef du gouvernement, le Conseil est composé de personnes hautement qualifiées en économie, qui sont en contact avec la communauté économique internationale et qui sont surtout capables d'identifier et de proposer des solutions concrètes. La décision de former le Conseil économique national a été prise dans l'optique de la préparation de mesures contre les retombées de la crise financière mondiale sur la République tchèque. Et il fonctionnera tant que cela sera nécessaire. Le Conseil devrait se réunir une fois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Le Premier ministre a exprimé son regret et son étonnement que la social-démocratie, leader de l'opposition, ait refusé de participer aux activités du Conseil et a indiqué que la position du Parti social-démocrate était incompréhensible, mais que de toute manière, cette formation politique avait toujours la porte ouverte à une éventuelle participation. Qui sont donc les 10 membres du Conseil économique national ? 2 anciens ministres, Jiří Rusnok et Vladimir Glowy, le stratège économique de la banque ČSOB, Tomáš Sedláček, d'autres experts en économie comme Jiří Kuvert, Michal Mejstřík, Jiří Schwartz, Miroslav Zamečník ou Pavel Kohout, le chef de bureau du président de la République Jiří Weigel et Martin Jan, le président de Volkswagen Group en Russie et président de l'Association de l'industrie automobile, qui nous explique ce que le Conseil devrait faire en dehors de son objectif principal.
Ce que je voudrais encore ajouter est que nous ne devrions pas oublier la prospérité à long terme et ne nous concentrer que sur la solution pour cette année. Nous devrions aussi porter notre intérêt sur des secteurs comme l'éducation, le développement et la recherche, l'adoption de l'euro aussi, car ce sont toujours des questions clés.
Le chef du gouvernement a expliqué que chaque membre du Conseil avait une tâche bien définie et qu'il devra rédiger son point de vue sur la situation. La première réunion aura lieu avec les ministres du secteur économique et les propositions communes adoptées seront remises à la Chambre des députés lors de sa première séance de février, en commun avec les propositions de modification du budget de l'État en raison du changement dans les prévisions macroéconomiques. Le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, a déclaré à ce sujet qu'il ne se refusait pas à effectuer des changements dans le budget de l'État, à condition que les moyens financiers dégagés pour faire face à la crise soient employés d'une manière concrète et temporaire. Il faut aussi que les mesures proposées par le Conseil conduisent à la croissance économique et au bon développement de la politique de l'emploi, tout en stimulant les investissements privés.
La crise économique mondiale semble avoir durement frappé à la porte de l'économie tchèque. Au mois de novembre dernier, les exportations, pilier essentiel de la croissance, ont connu une baisse de 18%, ce qui est une chute jamais vécue depuis 1994. Jakub Zubrova pour plus de détails.
Le commerce extérieur tchèque a affiché en novembre 2008 un déficit de 42,5 milliards de couronnes. Il s'agit de la plus importante chute qui se soit produite sur un mois. Ni le cours faiblissant de la couronne n'a pu sauver la situation des exportateurs tchèques durement affectés par les retombées de la récession de leur premier débouché, la zone euro où les deux tiers des exportations tchèques se dirigent. Tout cela s'est manifesté par une réaction dramatique du commerce extérieur tchèque, explique Helena Horska, analyste de la Raiffeisen Bank. Selon elle, le résultat aurait pu être pire encore si les importations des investissements et des matières premières n'avaient pas baissé en rapport avec la limitation de la production.
Les exportations tchèques ont atteint leur minimum historique. La baisse de 18% est la plus importante dans l'histoire du pays. Les exportations ont baissé notamment à la suite d'une diminution des exportations de voitures sur les marchés occidentaux, résultat d'une demande faiblissante des automobiles à l'étranger. La baisse des exportations a touché également d'autres branches, car la demande à l'étranger est réellement très faible.
L'industrie automobile tchèque, qui est un exportateur clé, a eu à faire face à une baisse de la demande de 28% sur les marchés européens. Une compensation espérée sur les marchés de l'Est n'a pas eu lieu. Les exportations vers la Chine, que beaucoup considéraient comme un marché prometteur, ont baissé de moitié. Le bilan du commerce extérieur pour 2009 a dépassé les attentes les plus noires et les analystes sont unanimes pour dire qu'une amélioration ne se produira pas dans les prochains mois. L'économiste de Patria Finance, David Marek, qui fait partie de l'aile la plus pessimiste quant aux prévisions économiques, s'attend à ce que la balance du commerce extérieur tchèque tombe à zéro en 2009. Pour ce qui est des autres indices économiques, l'inflation en République tchèque a baissé pour atteindre 3,6% au mois de décembre dernier, elle devrait continuer à baisser. En revanche, le taux de chômage a atteint 6% à la fin de l'année à cause des retombées de la crise mondiale sur la fermeture de plusieurs productions. Il pourrait dépasser les 7% en 2009 selon les prévisions.
Personnalité de l'année. Telle est la distinction qui a été attribuée jeudi par la Chambre de commerce franco-tchèque à Fabrice Martin Plichta, journaliste et directeur de la Fédération tchèque des banques alimentaires. Ce sont justement les activités en faveur de cette institution qui lui ont valu cette appréciation. On l'écoute.
C'est une reconnaissance du travail effectué maintenant depuis 4 ans pour la renaissance des banques alimentaires en République tchèque. C'est une reconnaissance aussi pour tous ceux qui m'ont aidé dans ce travail, tous les bénévoles et tous les partenaires aussi et sponsors qui ont permis cette renaissance et le fait qu'aujourd'hui il y ait 3 banques alimentaires en République tchèque.
En quoi consiste votre rôle précisément ?
Mon rôle a été d'organiser, de réunir les bonnes volontés pour s'associer pour reconstruire ces banques. Et puis mon rôle essentiel, c'est donc de trouver des sponsors pour faire tourner la machine et surtout des donateurs de produits denrées alimentaires que nous redistribuons ensuite aux associations. Et là, c'est la troisième partie de mon rôle, c'est aussi d'aller vers ces associations, de leur présenter, de leur proposer de s'approvisionner auprès des banques alimentaires.
Est-ce que la fédération couvre toute la République aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, la fédération tchèque a trois banques, une à Prague, une autre à Ostrava et une autre à Rychnov, en Bohême de l'Est. Donc ça ne couvre pas totalement le territoire, mais nous avons des associations, des institutions d'à peu près partout de République tchèque, même dans des régions où nous n'avons pas encore d'entrepôt. Elles trouvent l'occasion et de passer à Prague pour s'approvisionner lorsque nous pouvons leur donner des produits.
Et quelles sont les personnes ou les établissements qui ont besoin le plus de votre aide ?
Ben, ont besoin de notre aide beaucoup toutes les institutions qui s'occupent des SDF, car elles ont beaucoup de problèmes pour financer les repas qu'elles fournissent à ces personnes. Et puis après, nous aidons nombreuses institutions qui accueillent des femmes seules avec enfants, des orphelinats, des maisons de retraite aussi, des centres pour personnes handicapées ou enfants handicapés. Après, nous adaptons en fonction de ces centres ce que nous leur donnons. Certains, c'est plus des produits alimentaires de base, d'autres c'est un peu plus ludique, entre guillemets, dans le sens des biscuits, des bonbons, des chocolats, en fonction de ce que nous donnent nos partenaires.
Pensez-vous que le rôle, la tâche des banques alimentaires va augmenter avec la crise qui commence à affecter aussi la Tchéquie ?
Nous redoutons en effet que la demande augmente encore. Je pense que la crise va provoquer de nombreuses turbulences dans les familles, et justement dans les familles déjà les plus pauvres ou les plus menacées, ou celles qui ont déjà droit à un certain nombre de soutien de notre part via les associations et institutions partenaires. Nous appelons les entreprises à être, malgré leurs propres difficultés aussi, être généreuses et à penser à ceux qui souffriront encore plus de cette récession.
Vous êtes journaliste, vous êtes directeur de la Fédération tchèque des banques alimentaires. Comment arrivez-vous à concilier les deux missions ?
Je dirais presque les deux se combinent assez bien et se complètent. Bien sûr, c'est assez exigeant en temps, mais on y arrive, hein. Il suffit un peu de s'organiser et de se partager. Mon travail de journaliste est en même temps permanent, mais n'occupe pas ni l'esprit, ni mes mains, ni mon temps à longueur de journée. Donc ça laisse des moments pour s'occuper de manière plus intense des activités des banques. Parfois, quand l'actualité est trop riche, on met en sourdine la deuxième et on compte sur les personnes qui m'aident déjà tout au long de l'année.
Et c'est sur ces paroles de Fabrice Martin-Plichta que se terminent les faits événements en République tchèque. Mais ne quittez pas l'écoute, notre programme se poursuit.
Économie, commerce.
Quelles nouvelles du marché de la bière en République tchèque ? C'est la question que nous nous poserons aujourd'hui, après une année 2008 forte en événements entre fusions et chiffres records de production. La bière est-elle à l'abri des remous actuels de l'économie ? Un programme préparé par David Allon et présenté par Alain Slivinski. La crise économique ne semble pas avoir encore affecté les ventes de bière en République tchèque, mais une baisse de la fréquentation touristique en 2009 pourrait voir impacter bars et auberges du centre de Prague. Il n'en reste pas moins que les deux années précédentes ont été des années fastes pour la bière tchèque. La production a augmenté au cours du premier semestre 2008 et, pour ne prendre qu'un exemple, en 2007, la brasserie Boudvard a augmenté ses ventes de 9% et son profit annuel de 13%. Le seul impact potentiel de l'actuelle crise se situerait en fait au niveau des crédits immobiliers. En effet, outre la vente de bière, les activités des grands groupes de brasseries comportent parfois des activités annexes, comme par exemple la constitution, pour leurs clients, de garanties bancaires pour les loyers de leurs établissements. Mais la chute brutale des ventes de bière au Royaume-Uni montre que la crise peut impacter un secteur qui paraît, a priori, totalement à l'abri, une activité qui, à Prague, est pourvoyeuse d'emplois et pas seulement pour les brasseries. Dans le Business Park de Chodov, à Prague, sont installés les services partagés de plusieurs grandes entreprises étrangères. C'est ici que la société InBev, groupe belge de brasserie et l'un des leaders dans ce secteur dans le monde, traite une partie de ses tâches administratives et financières. Ici travaillent environ 250 employés tchèques et européens, et la crise n'a, pour l'instant, pas encore tari les recrutements. Parmi ces 200 marques qui comptent Stella Artois ou Bex, InBev vend la célèbre Staropramen, passée dans le giron du groupe en 2000. Depuis, chaque employé dispose, outre des vouchers pour la bière, d'une visite de l'usine Staropramen à Smíchov. Staropramen représente 15% du marché tchèque, soit le plus gros marché du pays, avec ses branches régionales, Branik ou encore Ostravar. D'une manière générale, la brasserie tchèque attire fortement les investisseurs étrangers, puisque de son côté, le groupe hollandais Heineken avait acquis au début 2008 le groupe de brasserie et de distillerie Czech Drinks Union, qui regroupe les brasseries Krásné et Velké Březno, Louny et Kutná Hora, ainsi que la distillerie Granette. Si le volume des ventes de bière a, comme ailleurs, légèrement baissé depuis quelques années, ce n'est pas tant dû à la crise qu'à un phénomène de plus long terme qui voit une certaine baisse de la consommation de bière en Europe. Un phénomène également observable pour le vin en France. Comme nous le précise l'un des managers de la société, on privilégie désormais la qualité plutôt que la quantité. Et surtout, on conserve une stricte segmentation des marchés. Certaines marques sont destinées à une clientèle aisée et d'autres à des portefeuilles plus modestes. Une stratégie marketing qui a prouvé son efficacité et qui conditionne l'image de chaque produit. Les deux grands brasseurs, Anheuser-Busch et InBev, ont fusionné en juillet dernier, faisant d'Anheuser-Busch et InBev l'un des leaders de la brasserie dans le monde, avec quelques 120 000 employés dans 30 pays. Une fusion qui a donné un coup d'accélérateur à un vieux contentieux entre Boudvar tchèque et Anheuser-Busch. Le groupe a d'ailleurs longtemps été intéressé par l'acquisition de Boudvar, mais son intérêt s'est émoussé depuis la fusion avec InBev, cette dernière disposant déjà d'un nombre considérable de filiales en Europe. Le 16 décembre dernier, la Cour de première instance au Luxembourg a rejeté la décision du Bureau pour l'harmonisation du marché interne, OHIM, qui autorisait l'enregistrement de la marque Bud sur le groupe Anheuser-Busch. Dans le passé, Budweiser-Boudvar s'était déjà opposé à cette orientation. Entre 2000 et 2007, il y a eu ainsi pas moins d'une centaine de poursuites judiciaires et de procédures administratives contestées par Boudvar.
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très beau week-end, bien que pour beaucoup plus glacial que d'habitude, en vous disant au revoir. Nasrédano.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.